Le 18-20, France Inter commence ici. Youpi, bienvenue sur la planète et sa banlieue. Le coup d'envoi, c'est vous, Amélie Perrier, comme tous les soirs. Bonsoir Amélie.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel de ce jeudi commence avec des aliments qui ne sont pas nos amis.
On va changer le menu du dîner ce soir, Fabienne. Après la publication d'une étude sur les aliments ultra modifiés, on le savait, c'est confirmé, plus il y a de transformation, plus il y a de risques pour la santé. Le bac se passera sans encombre, le ministre tente de rassurer les candidats après l'annonce d'une grève de la surveillance des épreuves. Entre 20 et 30 mules des passagers transportant de la drogue pour les trafiquants, 20 à 30 tentent chaque jour d'embarquer à Cayenne en Guyane sur des vols pour Paris. Et la justice ne va pas faciliter le travail des policiers, elle condamne les interrogatoires des passagers. Le grand défi, c'est une course aux déchets en kayak à Marseille où il a fallu aujourd'hui pagayer vite et surtout ramasser le plus de détritus possible. Les filles ont-elles dû laisser leur chambre aux garçons? On parle des Bleus de Corinne Diacre et de Didier Deschamps, tous réunis à Clairefontaine où l'on manque de lits. Et puis fini pour les Françaises à Roland-Garros, Caroline Garcia, la dernière en lice, vient d'être sortie au deuxième tour. Le soleil va s'imposer demain. Météo complète à la fin de ce journal.
À 18h15, un jour dans le monde en Israël. Ce soir, on prend les mêmes et on recommence puisqu'on n'a pas trouvé de coalition. Mais on se demandera aussi quand même si le glas sonne pour Netanyahou, pour cette élection qui est à refaire. Pas trop vite quand même, hein. L'homme est solide, mais c'est vrai que c'est un sacré revers pour lui. Nous sommes aussi en Égypte ce soir, en ce mois de Ramadan, où comment le pouvoir autoritaire égyptien essaie de s'accaparer les séries télé, figurez-vous, à très très forte audience pendant cette période. Et puis 19h20, le téléphone sonne au chevet de la droite ce soir, avant la réunion de crise prévue mardi prochain autour de Gérard Larcher. C'est quoi la place politique des Républicains aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va falloir revoir? Revoir quoi? Quelle ligne? Est-ce que la droite pourrait disparaître? Elle parle de qui? Et de quoi exactement? 01 45 24 7000.
France Inter.
Malbouffe, donc, c'est le meilleur ingrédient pour une mauvaise santé.
Et oui, Fabienne, on l'entend et le présume depuis quelques années. Deux études européennes d'ampleur le confirment aujourd'hui. L'abus de plats industriels ultra modifiés augmente les problèmes cardiovasculaires et les décès prématurés. Quand les saucisses sous vide, les conserves de raviolis, les céréales du petit déjeuner se transforment en obésité, voire en cancer. Bonsoir, Daniel Messager.
Bonsoir.
Alors, quels sont ces aliments qui nous veulent du mal, hein?
Je ne vais pas tous vous les citer, hein, car ils sont très, très nombreux. Alors, vous en avez évoqué quelques-uns. On peut ajouter les sodas, les confiseries, les nouilles instantanées, les plats prêts à réchauffer, etc., etc. En fait, dans un supermarché, ils occupent la majorité des rayons. De plus en plus d'études, et la dernière, celle qui est publiée aujourd'hui dans le British Medical Journal, menée par une équipe de l'INSERM, observe la hausse des risques de maladies cardiaques quand on consomme ces produits. La même équipe avait déjà pointé les risques de cancer. Alors, on dit qu'un aliment a été ultra transformé quand il a fallu plusieurs étapes pour le conserver avec une variété d'ingrédients, additifs, émulsifiants, c'est la majeure partie des aliments industriels qui doivent être produits en grande quantité, prêts à consommer et ne pas coûter trop cher.
Mais Daniel, pourquoi l'industrie agroalimentaire continue de nous vendre ces produits s'ils sont à ce point dangereux ?
Mais c'est un peu comme si vous me demandiez pourquoi l'industrie du tabac continue à fabriquer des cigarettes. Cette industrie rapporte beaucoup et le lobby agroalimentaire est très puissant. Il n'est qu'à voir les difficultés pour apposer le Nutri-Score sur les aliments à cause de la pression des grands groupes. C'est un indicateur de qualité qui donne donc des indications sur les qualités nutritionnelles. Et aujourd'hui, il est un peu plus présent mais toujours pas obligatoire et les réglementations sont faciles à contourner. 60 millions de consommateurs expliquent par exemple comment les additifs ne sont pas ajoutés dans les yaourts, car c'est interdit en France, mais dans les mélanges de fruits. Donc la plupart des yaourts aux fruits contiennent des additifs. Comme pour le climat, il faudra sans doute une pression des citoyens pour obliger les fabricants à changer leurs procédés.
Merci beaucoup, Daniel Messager, spécialiste santé. Une poussée de fièvre, cette fois sur nos factures d'électricité. Les tarifs augmentent de près de 6% samedi. La hausse des tarifs réglementés vient d'être publiée au journal officiel. Le gouvernement accuse une dérive des coûts de production d'EDF. Cela va concerner 25 millions de foyers. On y reviendra dans le journal de 19h. Les élèves de terminale pourront-ils passer le bac sans problème cette année? Pas sûr après l'ultimatum lancé par des syndicats d'enseignants et par les stylos rouges. Ils menacent de faire la grève de la surveillance des épreuves le 17 juin, premier jour de l'examen, pour protester contre la réforme du lycée et du bac et contre la loi pour une école de la confiance. Le ministre Jean-Michel Blanquer, directement visé, veut rassurer les lycéens.
Notre premier devoir à tous, c'est d'assurer une sérénité du passage du baccalauréat. Donc mon message
est évidemment un message de sérénité, notamment vis-à-vis des élèves, parce qu'on n'a pas besoin d'ajouter du stress au stress qui peut déjà exister quand on prépare un examen. Donc le 17 juin, les choses se passeront normalement pour tous les élèves et nous nous organiserons pour qu'elles se passent comme il faut. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'inquiétude sur cette question. Je dis que j'étais surpris parce que je pense que ce n'est pas un mode d'action convenable pour quelques revendications que ce soit. Je n'ai besoin d'aucune pression pour ouvrir ma porte et elle est déjà ouverte. Et donc, encore une fois, je sais de toute façon que les professeurs de France sont responsables et que ce n'est pas le genre de mot d'ordre qu'ils suivront très fortement.
Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, au micro France Bleu Champagne de Sophie Constanzer. Lui ne révise pas, mais il est parti se mettre au vert pour travailler au calme, nous dit l'Élysée. Emmanuel Macron passe le long week-end de l'Ascension au fort de Brégançon, la résidence officielle des chefs d'État dans le Var. Et a priori, il n'a pas eu à subir les bouchons records sur les routes. En fin de matinée, Bison Futé avait compté 634 km de ralentissement, surtout sur les autoroutes du Sud et vers l'Atlantique. Hier soir, le record a été battu avec 1340 km de bouchons cumulés. Là, ce soir, ça s'est calmé, mais tout cela augure quand même des retours dantesques. Dimanche soir, classé rouge encore dès la fin de matinée et jusque tard dans la soirée, nous dit Bison Futé.
Il est 18h06 sur France Inter. Amélie, il passe aux aveux.
Le principal suspect de l'attaque terroriste de Lyon, un colis piégé, a blessé 13 personnes. Vous vous en souvenez, vendredi dernier, bien l'étudiant algérien vient de reconnaître devant les enquêteurs avoir fait allégeance au groupe État islamique. Hier, il admettait avoir fabriqué l'engin explosif. Sa garde à vue et celle de son frère se prolongent, mais celle de ses parents ont été levées cet après-midi. Pas simple en revanche pour les autorités d'endiguer le trafic de cocaïne qui prospère entre la Guyane et l'Hexagone. La justice vient d'annuler des arrêtés qui permettaient aux agents d'interdire de vol des passagers à l'issue d'un interrogatoire. Les douaniers et la police cherchent parmi ces passagers des mules, des hommes et des femmes qui avalent des sachets de cocaïne pour les acheminer en métropole. Bonsoir Sarah Bibaudeau.
Bonsoir.
Le phénomène explose et les autorités viennent de perdre donc une manche contre les trafiquants.
Il faut dire que le préfet de Guyane avait pris des mesures drastiques et selon le tribunal administratif, contraires aux droits de l'homme. Depuis 3 mois, certains passagers ciblés par la douane doivent répondre à un questionnaire avant d'embarquer pour Paris. Si le passager ne peut pas justifier son voyage pour une raison précise, s'il n'a pas assez d'argent pour payer les frais de son séjour ou pas de contact d'un parent ou d'un ami à l'arrivée, il devient suspect d'être une mule. C'est ainsi que le 25 février, 2 voyageurs français ont été interdits de vol pendant 3 jours. Ces deux-là ont déposé un recours et ont donc gagné. La justice administrative estime que la mesure porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. Le plus simple, vous allez me dire, serait de fouiller les passagers. Oui, mais les forces de l'ordre se disent dépassées par l'ampleur du phénomène. Une trentaine de personnes tenteraient chaque jour d'embarquer de la drogue entre Cayenne et Orly. 577 ont été arrêtés l'année dernière et la semaine dernière, un étudiant de 20 ans est mort à son arrivée. Une boulette de cocaïne s'est fissurée dans son estomac.
Sarah Guibaudeau, merci à vous. À l'étranger, Israël au cœur des préoccupations. D'abord à cause de l'échec de Benjamin Netanyahou de former une coalition gouvernementale. Les Israéliens vont devoir retourner voter et élire une nouvelle Knesset. Ils n'ont pas besoin de cela, a tweeté l'Américain Donald Trump. La situation est suffisamment compliquée là-bas, ajoute-t-il. Compliquée, car l'autre dossier en suspens, c'est le plan de paix israélo-palestinien. Le gendre du président Trump, Jared Kushner, en charge de rédiger ce plan, est arrivé à Jérusalem pour préparer la conférence économique, une amorce au plan de paix promis depuis plus d'un an, mais toujours retardé, Étienne Monin.
Cette conférence économique est la première initiative concrète des États-Unis depuis que Jared Kushner travaille sur le deal du siècle voulu par le président pour résoudre le conflit israélo-palestinien. L'idée serait de lever 60 milliards d'euros pour investir en Palestine et dans les pays autour. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont partants. Les Palestiniens, les Russes et les Chinois ont décliné. À Jérusalem, aujourd'hui, le gendre du président a rappelé l'attachement des États-Unis à la sécurité d'Israël. La crise politique sur place n'a pas changé son agenda. Le Premier ministre israélien a même utilisé un incroyable euphémisme après la réunion.
Comme vous le savez, il s'est passé un petit événement hier soir, mais ça ne va pas nous stopper. On va continuer à travailler ensemble. On a eu une réunion formidable et productive qui réaffirme que l'alliance avec les États-Unis n'a jamais été aussi forte.
Pour les Américains, la conférence économique est un premier pas, mais le volet politique n'a toujours pas été présenté. Il est autrement plus délicat et le calendrier n'est pas bon avec les élections en Israël et plus plus tard la campagne aux États-Unis. Jérusalem, Étienne Moulin, France Inter.
Israël vers de nouvelles élections, c'est le sujet aussi d'un jour dans le monde à retrouver après ce journal, hein, Fabienne.
Absolument.
Un accident exceptionnel sur le Danube en Hongrie. Un bateau de tourisme a coulé à Budapest. Parmi les passagers, des visiteurs sud-coréens, on recense pour l'instant 7 morts, 21 disparus. Le bateau a heurté un autre navire de croisière. La police hongroise a ouvert une enquête criminelle. Elle a fait vibrer l'opéra du Rhin. L'allemande Eva Kleinitz, directrice générale de l'établissement qui regroupe Strasbourg, Mulhouse et Colmar, a succombé à une maladie. Elle avait 47 ans. Elle avait aussi dirigé l'opéra de Bregenz en Autriche et de Stuttgart en Allemagne.
Allez, on parle sport, Amélie, avec une course pas comme les autres.
Et peut-être plus utile que les autres. Le grand défi s'est couru aujourd'hui à Marseille. Une compétition en kayak de mer, 20 équipes de 2, pour une course aux déchets où les concurrents devaient parcourir 8 km le long de la côte et ramasser le plus de déchets possible. C'est le reportage de notre correspondante à Marseille, Isabelle Dor.
8 km à parcourir de la plage des Catalans à l'escale Borélie. 8 km en ramant et en nageant le long de la corniche. Et pour cette compétition, les vainqueurs ne sont pas les plus rapides, mais ceux qui ont ramassé le plus de déchets.
On a trouvé une belle barrière, sa petite sœur là.
Ça pèse combien ça?
Une quinzaine de kilos. Elle était à 4 mètres de profondeur.
Il y a de tout, du fer, un gilet jaune, des pneus, beaucoup de pneus, il y en a qu'on ne peut même pas ramasser, ils sont énormes, hein. Je ne sais même pas comment ils sont arrivés là. On a longé le bord, alors plutôt auprès du bord, puisque c'est là où il y a le plus de saloperies, des trottinettes, du plastique, de tout. Ici, tout finit dans la mer.
Même une gouttière et un fauteuil. À l'arrivée, à l'escale Borélie, les bénévoles trient les déchets ramassés, 1 tonne 200 kilos de déchets, sous le regard de Manu Laurin, co-organisateur du Grand Défi.
Là où je suis vraiment content, c'est que j'ai entendu de la bouche de gens, c'était génial. Ils ont aimé servir la cause de l'environnement. Et c'est ça qui est sympa, c'est d'être arrivé à créer un peu cette dynamique où on sert la cause et à la fois on prend du plaisir.
Et tous sont prêts à repartir pour une deuxième édition l'an prochain.
Pour que tout le monde prenne conscience qu'on ne peut pas se servir de la mer comme d'un dépotoir.
Marseille, Isabelle Dor, France Inter.
Du sport encore à Roland Garros, où Gaël Monfils vient de se qualifier, tout comme le français Antoine Hoang. C'est le petit exploit du jour, il était 146e mondial, il passe au 3e tour en battant Fernando Verdasco, lui est 27e. En revanche, la déception pour Caroline Garcia, éliminée il y a quelques instants, elle au 2e tour. Il n'y a plus de française à la porte d'Auteuil, c'est fini aussi pour Gilles Simon. Pas de miracle là pour le jeune Elliot Benchetrit, la sensation française du 1er tour. Il sort au 2e, battu par le Serbe Lajovic. Pour ce qui concerne les têtes de liste, eh bien Novak Djokovic, lui, il a été à la hauteur de son classement de numéro 1 mondial. Il s'est qualifié sans problème contre le Suisse Henri Laaksonen, tout comme la numéro 1 mondiale Naomi Osaka, même si pour elle ce fut bien dur. Qualifiée aussi pour le 3e tour, Serena Williams. La mixité dans le sport, ou en tout cas l'égalité de traitement entre sportives et sportifs. Il y a encore du travail, en tout cas dans le foot. Exemple à Clairefontaine, où 3 équipes de France sont réunies, les Bleues féminines de Corinne Diacre, ceux au masculin de Didier Deschamps et les jeunes, les U20. Et alors qu'elles sont en pleine préparation du mondial féminin, eh bien les filles ont dû quitter leur chambre pour laisser la place aux garçons. Alors, scandale machiste ou pas, des éléments de réponse avec Cédric Guillot.
Faute de place suffisante, les joueuses françaises ont été priées de déménager. Elles ont quitté, dès lundi matin, le château de Clairefontaine et ont été relogées au sein du domaine de la voisine, à l'entrée de Clairefontaine. La sélectionneuse des Bleus, Corinne Diacre, n'en a pas pris ombrage.
Il n'y a aucun problème. Écoutez, avec Didier, on a échangé. Le château est d'abord prioritaire pour les Bleus. Ça a toujours été comme ça. Et ça l'est encore plus depuis juillet l'année dernière. Donc il n'y a aucun sujet, très sincèrement. Au contraire, même, puisque Clairefontaine a mis tout en œuvre pour nous trouver un point de chute. Et surtout, ce qui était important pour moi, c'était de continuer à s'entraîner ici sur des terrains de qualité. Donc pour nous, l'essentiel, c'était d'avoir des bons terrains et de s'entraîner à la maison, tout simplement, comme d'habitude.
Cette situation va durer jusqu'au départ des Bleus de Didier Deschamps pour la Turquie le 7 juin prochain. À Clairefontaine, Cédric Guillou, France Inter.
En tout cas, nous, ça nous fait une raison de plus d'encourager les Bleus.
Mais carrément.
Demain, elle se chauffe avec un match test contre la Chine à Créteil. Et puis, la Coupe du Monde féminine de foot débute dans une semaine, vendredi 7 juin. France, Corée du Sud, ce sera à 21h au Parc des Princes, au Parc des Princesses, à Paris.
Allez, c'est elles qui sont prioritaires. Enfin, c'est fou. Il faut peut-être le répéter, y compris à elles parfois.
D'accord.
Allez, Amélie Perrier, merci beaucoup. Vous revenez dans Un jour dans le monde.
Sous les radars ce soir, les Chinois se passionnent pour un débat télé inédit entre deux journalistes américaines et chinoises Devinez sur quoi ? Sur la guerre commerciale. Oui, ça passionne les Chinois. Jacinda Ardern, la nouvelle Theresa...
Theresa May de Nouvelle-Zélande, vous voulez dire ?
Bon, pas tout à fait, mais bon, la chef du gouvernement dévoile aujourd'hui un budget bien-être en Nouvelle-Zélande. Voilà. Et puis, un maire tout juste élu en Espagne s'attaque à Franco. Il a décidé de rebaptiser son village Guadiana del Caudillo, comme le Caudillo Franco. On va enlever les références à Franco.
Oui, c'est vrai. Puis c'est bien d'enlever les références à Theresa May aussi, parce que souvent, elle n'est pas très en forme.
Oublions Theresa May.
Allez,
rien
ce
à
sera
voir.
Autour de 18h37. Ce soir, nous allons en Israël compter les abattis de Benjamin Netanyahou ou constater qu'il est encore bien vivant malgré l'échec de la tentative de coalition et donc un retour aux urnes pour le mois de septembre prochain. Nous sommes en Égypte devant des séries de télé en période de Ramadan et puis à 19h20, le téléphone sonne. C'est quoi la droite aujourd'hui? C'est quoi sa place? La crise est ouverte, on entend les critiques et même les ultimatums comme celui que viennent de signer 11 jeunes députés. À qui parle la droite? Est-ce que c'est ça qui a plombé les Républicains aux européennes? Est-ce qu'elle peut réellement disparaître? C'est à vous de nous le dire au 01 45 24 7000.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Sébastien Léas, du soleil, enfin! C'est pour demain, depuis le temps que vous nous l'annoncez
pour
celui-là.
Pour tout le monde en plus. Voilà. Dès le matin, le ciel sera tout bleu en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et du Jura aux Alpes jusqu'à la Côte d'Azur et à la Corse. Ailleurs, le ciel sera un peu plus variable demain matin avec des nappes de nuages bas, voire quelques brouillards. Entre les Côtes d'Armor, la Normandie et le Pas-de-Calais, le début de journée sera même assez gris, mais progressivement, ces grisailles vont disparaître et le soleil va s'imposer partout l'après-midi. Sur le nord-est et le massif central, le soleil sera accompagné par quelques bourgeonnements nuageux sans conséquence.
Et nouvelle hausse des températures.
Oui, les maximales seront clairement estivales demain avec des pointes jusqu'à 30 degrés dans la région bordelaise ou le Languedoc. Demain après-midi, il fera 23 degrés à Lille, Caen, Brest, Nice et Ajaccio, 25 degrés pour Metz, Mulhouse et La Rochelle. On ira jusqu'à 26 degrés à Marseille, à Nantes, à Biarritz et à Clermont-Ferrand et 27 degrés pour Paris, Lyon, Toulouse et pour Nîmes. Et cette chaleur va encore s'accentuer. Samedi et dimanche, les 30 degrés seront aussi atteints, voire dépassés sur la moitié nord.
Voilà, je note qu'il y aura des bourgeonnements nuageux, mais quel poète ce Sébastien Léas.